Radio Kapi.
Le journal Patience Ngalula Mbombo Banange.
Au sommaire de cette session de vos nouvelles, Sud Kivu, 15 morts à la suite des fortes précipitations dans les territoires de Fizi. Dans la nuit de samedi à dimanche, les députés élus de la circonscription électorale de Fizi, Maloumbi Mathieu, sollicitent l'intervention du gouvernement provincial et des humanitaires. Rencontre lundi entre le chef d'état-major général de FRDC et son homologue des forces armées ougandaises, UPDF, au poste frontalier des Kassindi au Nord Kivu. Au menu de cette rencontre, l'évaluation des opérations conjointes FRDC et UPDF, dénommées Shuja, dans les territoires de Beni au Nord Kivu, ainsi que dans ceux de Mambasa et Irumu à Ituri. Une semaine après les reports inédits de l'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le calendrier réaménagé n'est toujours pas connu. Le député Didier Kamundu menace d'activer la procédure de destitution du bureau d'âge si le bureau définitif n'est pas installé dans un bref délai. Didier Kamundu est l'invité de ce soir. Bonsoir, ce journal part du Sud Kivu, où 15 morts ont été enregistrés dans les territoires de Fizi. Au Sud Kivu, suite aux fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit de samedi à dimanche dans cette contrée, les députés élus de la circonscription électorale de Fizi, Maloumbi Mathieu, déplorent plusieurs dégâts matériels et la famine qui guette la population. Les eaux des pluies ont inondé les champs et emporté des maisons. S'adressant aux députés, Mathieu Maloumbi sollicite l'intervention du gouvernement provincial et des humanitaires intervenant au Sud Kivu. Il est dit au micro de Jean Kassami.
Cette population-là est dépourvue presque de toutes choses. L'eau qui a déferlé dans le village a emporté les maisons. Et vous voyez, c'est un incident qui s'est produit pendant la nuit. Il y a une famille qui a perdu 8 personnes, les enfants sauf la maman qui était sauvée. C'est triste. Et nous demandons donc au bureau de l'Assemblée provinciale d'aller demander au gouvernement provincial de voir de quelle manière cette population-là doit être assistée, mais aussi les humanitaires qui sont dans la province, de s'approprier ces cas-là. Il y a aussi la famine parce que cette pluie a englouti même les champs. Et d'où il faut une intervention. L'assistance doit se focaliser sur les vivres et les non-vivres. La situation est désastreuse. D'où la volonté des bonnes personnes qui doivent aller d'une manière ou d'une autre assister cette population-là. Nous demandons aussi aux humanitaires qui sont dans la province de s'approprier ces cas-là pour aller assister cette population qui est presque abandonnée.
Nous venons de l'apprendre, dans la province du sud d'Ubangi, grave accident de navigation il y a une semaine sur la rivière Mongala. Au moins 18 corps repêchés, 200 rescapés et plusieurs disparus indiquent les derniers bilans provisoires. C'est une baleinière qui transportait des passagers et leurs marchandises en provenance du marché d'un périphérique pour Akula et Binga. Plus de détails avec Paul-Richard Malengela.
Des sources concordantes affirment que la baleinière HB Ville de Binga a connu un naufrage vers 22h heure du sud d'Ubangi. L'embarcation en bois avait à son bord des centaines de passagers et leurs marchandises. Ils revenaient du marché périphérique de Bokanga, à environ 100 km du port d'Akula sur la rivière Mongala. Mais pendant la navigation nocturne sous la pluie, la baleinière se fait balloter par une forte tempête. C'est alors que la plateforme supérieure cède sous l'effet de la surcharge et s'abat sur la coque. L'embarcation se disloque aussitôt, projetant à l'eau passagers et marchandises. Le drame se produit au large du village Bongomela, à 60 km en aval d'Akula. Selon les témoins, à peine 18 corps sont repêchés, il y a aussi 200 rescapés, mais plusieurs disparus dont le nombre reste inconnu, à défaut de manifestes des passagers qui étaient à bord. Comme les victimes, la majorité de ces rescapés sont des commerçants, ils ont tout perdu et ne savent comment reprendre leurs activités et prendre en charge leur famille. Il lance donc un cri de détresse auprès du gouvernement central afin de leur venir en aide. Bondaka, prochain Malengela, Radio Okapi.
Je l'ai annoncé au sommaire, le chef d'état-major général de FRDC, le lieutenant général Christian Tshuwewe et son homologue des forces armées ougandaises, UPDF, ont eu un tête-à-tête le lundi dernier au poste frontalier de Kassindi-Lubiria à environ 90 km au nord-est de la ville de Beni. Au menu de cette rencontre, l'évaluation des opérations conjointes FRDC-UPDF dénommées Shuja dans les territoires de Beni au nord Kivu ainsi que dans ceux de Mambasa et Irumu. André Kitenge nous fait le point.
Cette rencontre entre les deux chefs d'état-major des armées congolaises et ougandaises avait pour but d'évaluer les opérations conjointes menées par les deux armées FRDC et UPDF contre les ADF dans la région de Beni et à Ituri depuis novembre 2021, en ressortir les points forts et les faiblesses. Sans être précis, le bilan présenté par les deux armées fait état d'un bilan de plusieurs commandants et combattants ADF neutralisés et d'autres capturés. Les deux chefs des armées ont convenu de mobiliser les moyens nécessaires afin d'accélérer les opérations en cours pour rétablir la paix dans la région de Beni et dans une partie des territoires d'Irumu et de Mambasa en Ituri. Selon le porte-parole sortant des opérations Sokola 1, de nouvelles stratégies ont été mises en place par les deux chefs d'état-major en vue de relever les défis entravant la traque des rebelles des ADF dans la zone. Signalons que cette rencontre de haut niveau est intervenue 3 jours après celle tenue à Beni par le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements des FRDC et le commandant des forces terrestres de l'armée ougandaise, le général-major Dick Olum. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Au sud Kivu, après la fermeture définitive ce lundi de la base de la MONUSCO à Mushimbakiye, dans la ville de Baraka, plusieurs engins, camions et porte-chars des casques bleus pakistanais de la MONUSCO ont commencé à quitter ce mardi matin la ville de Baraka en direction d'Uvira. Le maire de la ville de Baraka a été présent à Mushimbakiye pour observer ces départs après 20 ans de la présence de la MONUSCO dans cette région sud du sud Kivu. Fiston Goma Mayabala.
Ces départs, longtemps entendus par la population civile locale, se fait en douceur et sous la supervision du maire de la ville de Baraka. Jacques Mbocha Houssen sensibilise les habitants de collaborer tout le long du parcours de ces convois de près de 30 véhicules de casques bleus entre Baraka et Uvira. En dépit de plusieurs sensibilisations faites sur ces départs, la douleur de séparation semble être plus forte aussi bien au niveau des habitants, des autorités locales que des humanitaires intervenant dans la zone. Le modérateur du réseau local de protection des civils, Yves Ramazanoua Ramazan.
La MONUSCO facilitait beaucoup les transports, comme le médicament. Mais aujourd'hui, avec la route qui est dans un état de délabrement avancé, puisque la partie ouvrira vers Baraka, c'est catastrophique. Donc, s'il y a un dégât qui peut surgir aujourd'hui, c'est catastrophique. Seulement, nous avons confiance au gouvernement. Ils doivent assumer leurs responsabilités pour que cette situation cesse.
La première phase du plan de désengagement signé en novembre dernier avec le gouvernement congolais prévoit le retrait de la MONUSCO au sud Kivu au plus tard fin juin 2024. Les chefs du sous-bureau de la MONUSCO Uvira, Kassim Ibamba, souligne que toutes les bases militaires devraient être fermées au 30 avril dernier. Cependant, le processus, surtout dans les hauts plateaux, est confronté à un sérieux problème logistique lié à l'évacuation des engins par la route. D'Uvira, Fiston Goma Mayabala, Radio Okapi.
Abordons à présent ce chapitre éducationnel. Au Nord Kivu, c'est finalement hier lundi vers 16 heures locales que certains finalistes de Rutshuru ont passé l'épreuve des dissertations, alors que d'autres centres n'ont pas ouvert en dépit de cet appel à l'ouverture. Cela après presque une journée de tractation. Les responsables de l'EPST déployés dans différents centres de Rutshuru ont été rappelés d'urgence par des autorités provinciales. C'était à la grande déception des candidats finalistes déjà désespérés. Réunis d'urgence hier, les autorités provinciales et les responsables de l'EPST rassurent que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de cette épreuve dans cette région sous occupation des rebelles du M23. Denise Loukesso.
La décision d'ouvrir les centres de passation a été prise à l'issue de la réunion d'évaluation tenue hier à Goma par les autorités provinciales et les responsables de l'EPST. Et c'est vers 17h que certains finalistes qui avaient déjà regagné leur village sont arrivés dans le centre de passation de cette épreuve à Kiwanja et retour au centre après avoir passé toute la journée sans espoir. Une épreuve qui s'est déroulée sans concentration, disent certains candidats. Le député provincial de Rutshuru, Elin Zani, qui a pris part à cette réunion, rassure assure que les dispositions sont prises.
Les finalistes de Routchourou, ils ne doivent plus s'inquiéter. Maintenant, de cet après-midi ou dès demain matin, il y a des équipes qui seront déployées partout. Parce qu'à Routchourou, il y a 11 centres. Tous ces centres-là vont organiser les examens. D'autant plus que les kits sont déjà sur les lieux et les équipes sont là. Il y a des dispositions qui sont déjà prises pour que les examens se passent normalement partout et sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu.
Si certains centres au chef-lieu du territoire ont ouvert hier, nous apprenons que ceux des Roubaré, Ishasha, Niamilima devraient passer la dissertation aujourd'hui, au deuxième jour de cette épreuve prévue pour l'oral des Français. D'autres centres encore ont été délocalisés vers Kanyabayonga et Walikale. Goma, Denis Lukeso, Radio Kapi.
Pendant ce temps au Sud Kivu, les épreuves préliminaires de l'examen d'État session 2023-2024 entrent dans sa deuxième journée ce mardi. Les directeurs de la province éducationnelle Sud Kivu 1 attestent que les épreuves se déroulent aussi normalement à Minova, malgré les bruits des bottes autour de cette partie de la province. La même source fait remarquer que les cahiers d'items ont été déployés à l'aide des compagnies aériennes privées dans la province éducationnelle Sud Kivu 3, où les routes sont complètement délabrées. Et cela a un prix exorbitant dont la somme a été défalquée, du montant payé comme frais des participations à l'examen d'État par les élèves. Simon Leazono est au micro de Jean Kassami.
S'agissant principalement de la province du Sud Kivu 3, au sein de laquelle vous avez les territoires de Shabunda et de Mwenga, la difficulté liée au transport consécutive, n'est-ce pas, à l'impraticabilité des routes a été contournée. L'inspecteur principal provincial de cette province éducationnelle, Sud Kivu 3, était ici à Bukavu où il a préféré envoyer le cahier d'item du territoire de Shabunda par voie aérienne. Donc il y a eu de petits porteurs qui volaient vers Shabunda qui ont transporté ces enveloppes-là. Donc cette difficulté a été contournée par l'inspecteur principal provincial.
Jadis, c'est la MONUSCO qui assumait cette tâche-là et donc aujourd'hui, on s'est servi des aéronefs commerciaux.
Oui. On a recouru à petits porteurs de particuliers et qui ont pu transporter ces examens-là. Mais du côté de Fizi, qui se trouve dans la province éducationnelle du Sud Kivu 2, jusque-là, aucune difficulté ne nous a été rapportée dans nos entretien.
Du côté de Maïndombe, au moins 4 centres d'examen d'État n'ont pas fonctionné ce lundi sur les 13 prévus pour les territoires de Kwamout. Cela à la suite de l'insécurité causée par le milicien Mobondo lié au conflit intercommunautaire Tekeyaka. Le chef de groupement Kimomo Stani Libi, qui tire la sonnette d'alarme, demande au gouvernement congolais de prendre des dispositions qui s'imposent pour restaurer la paix dans ces coins du Maïndombe afin que les activités scolaires puissent reprendre l'année prochaine. Irène Maluzolo.
D'après le chef traditionnel du groupement Kimomo Stani Libi, les 4 centres d'examen d'État qui n'ont pas fonctionné lundi dans les territoires de Kwamout au Maïndombe sont entre autres ceux situés au village Ngandabangala, Masambio, Boku et Ngweme. Dans ce coin du pays, les enseignements n'ont pas été organisés depuis le début de l'année. Parents et enfants sont en déplacement fuyant l'insécurité causée par la milice Mobondo et par conséquent, aucun enfant ne participe à ces épreuves en cours. Stani Libi, qui s'est dit préoccupé, plaide pour le rétablissement de la paix en vue de la reprise des activités.
Nous avons enregistré 9 centres des examens d'État sur 13, comme il y a d'habitude. C'est parce que jusque-là, tous les élèves, les uns se trouvent à Bandundu, les autres se trouvent à Kinshasa, les autres se trouvent éparpillés dans le Kwilu, à Maluku, ainsi de suite, raison pour laquelle les 4 autres centres n'ont pas été organisés. Et nous demandons au gouvernement de pouvoir faire un effort de telle sorte que l'année scolaire qui va bientôt commencer, 2024-2025, que les écoles et tous les centres puissent être mis en place et reprendre les activités.
Tous nos efforts pour joindre les autorités de l'EPST Maïndombe 3 à ce sujet sont restés sans succès. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Au Congo central, près de 56 000 finalistes participent à ces épreuves dans plus de 150 centres organisés à travers la province du Congo central. L'inspecteur général adjoint au ministère de l'EPST qui a procédé au lancement de ces épreuves à l'épée Londe des Matadi a appelé les participants à se méfier des faux items qui circulent sur les réseaux sociaux comme étant une fuite des questionnaires de l'examen d'État. Godefroy Katoto affirme que ces items ont été produits par des informaticiens véreux dans le but de désorienter les finalistes. Nana Plurich Mambou, reportage.
Les épreuves de la hors-session de l'examen d'État, lancées à l'école primaire Londe de Matadi, se déroulent sans souci majeur dans les trois provinces éducationnelles du Congo central. L'inspecteur général adjoint au ministère de l'EPST qui les a lancées, en présence des autorités provinciales et éducationnelles du Congo central, a dans son adresse appelé les participants à s'abstenir de prendre en compte les soi-disant items de l'examen d'État qui circulent sur les réseaux sociaux. Godefroy Katoto.
Attention, sûrement parmi vous, il y en a qui ont vu hier sur les réseaux sociaux un texte qui circulait, cahier d'item 2024, fuite examen d'État hors session. Il n'en est rien parce que vous allez vous rendre compte que nous sommes au Congo central 1, nos amis qui sont à Moanda n'auront pas le même sujet que nous et ce que vous avez vu dans le réseau, tout le monde peut le faire, l'ordinateur est là, on peut bricoler et on vous présente n'importe quoi. Méfiez-vous.
Signalons qu'au premier jour, hier lundi, jusqu'à ce mardi, deuxième jour de ces épreuves de la hors-session de l'examen d'État, les autorités du secteur de l'éducation n'ont pas pu mettre les macarons d'accès à la disposition des participants. Les contrôles s'est fait sur base de la carte d'élève. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Congo central toujours, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, élu gouverneur du Congo central avec 23 voix sur 40 votants contre 16 voix pour Guy Bandou Ndungidi, les gouverneurs sortants à l'issue des élections des sénateurs, gouverneurs et des vice-gouverneurs du 29 avril dernier, prendra possession de ses fonctions ce 28 mai. Trois jours après avoir pris la cause en délibéré, la Cour d'appel du Congo central a rendu son verdict ce mardi en faveur de Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. La Cour d'appel du Congo central déclare la requête du regroupement politique Action des Alliés et Union pour la Nation congolaise en contestation de l'élection de Grace Nkwanga Maswangi Bilolo recevable mais non fondée. Cette décision de la Cour d'appel valide entérine l'élection de Grace Nkwanga Maswangi Bilolo en tant que gouverneur du Congo central, laquelle élection a été contestée par le gouverneur sortant Guy Bandou pour irrégularité et fraude présumée.
Actualité internationale.
Le président togolais Faure Gnassingbé a signé une nouvelle constitution controversée qui supprime les élections présidentielles, selon un communiqué de son bureau publié lundi en fin de journée. Selon ses opposants, cette décision lui permettra de prolonger les règnes de sa famille qui durent depuis 6 décennies. En vertu de la nouvelle législation, le Parlement aura le pouvoir de choisir les présidents, supprimant ainsi les élections directes. Samedi, la commission électorale a annoncé que les partis au pouvoir de Gnassingbé avait remporté la majorité des sièges au Parlement de ces pays d'Afrique de l'Ouest.
L'invité.
Une semaine après les reports inédits de l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le calendrier réaménagé n'est toujours pas connu. Le député Didier Kamundu menace d'activer la procédure de destitution du bureau d'âge si le bureau définitif n'est pas installé dans un bref délai. Dans une correspondance adressée aux députés, l'élu de l'Union sacrée s'insurge contre la léthargie à l'Assemblée nationale avec près d'un mois de chômage de députés alors que la République tourne au ralenti. Depuis maintenant 5 mois, Didier Kamundu est l'invité de Radio Okapi. Il est interrogé par Michel Kifindangoy.
Didier Kamundu, bonjour.
Oui, bonjour Michel.
Vous avez adressé une correspondance à vos collègues députés nationaux dans laquelle vous vous inquiétez face à la léthargie observée au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'en est-il concrètement?
Oui, effectivement, j'ai adressé la correspondance à mes collègues pour les réveiller et les sensibiliser sur la situation que nous traversons actuellement à l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, ça va faire maintenant 5 mois depuis que nous avons eu les élections. Et à la suite de ces élections, on devait mettre en place le bureau d'âge, ce qui fut fait à temps. Malheureusement, ce bureau d'âge ne fait que s'éterniser au pouvoir et ne veut pas installer le bureau définitif. Ça nous inquiète puisque ça handicape non seulement la mise en place des autres institutions de la République, vous l'avez suivi dans la presse, ça a eu des répercussions sur la nomination du Premier ministre. Aujourd'hui, ça a des répercussions sur les tractations pour la mise en place du gouvernement. comprend. Mais le plus grave, c'est que ça nous empêche, nous, en tant que députés, de faire la diplomatie parlementaire dans un contexte de guerre que nous vivons aujourd'hui. La guerre que nous traversons actuellement dans le Nord Kivu, qui affecte l'Ituri et le Sud Kivu, nécessite que les députés aussi puissent s'impliquer. On ne peut pas laisser cette tâche au président de la République seul, au gouvernement sortant soit-il, seul, il faut que les députés s'impliquent. Mais tout ça, on ne peut pas faire puisqu'il n'y a pas un bureau définitif qui nous engage.
Et alors, à votre avis, qu'est-ce qui bloque concrètement le bureau d'âge d'organiser les élections et d'installer les bureaux définitifs puisqu'il y avait déjà un calendrier qui était publié?
Oui, effectivement, par le passé, vous nous aviez dit qu'il y avait des guerres au niveau des livres sacrés, du présidium et qu'on sort. Je crois que ce problème-là a été levé et la famille du chef de l'État, l'Union sacrée, nous sommes mis d'accord par un vote démocratique en choisissant Vital Kamerhe comme notre candidat unique. À partir de ce moment, moi, j'estimais qu'il n'y avait plus d'obstacles puisque le reste des postes, un poste revient à l'opposition et les autres sont distribués au regroupement politique selon les accords qui sont actuellement en vigueur. Malheureusement, malgré tout ça, rien n'avance. Et on se pose la question pourquoi le président Mbosso avait publié un calendrier et tout le monde a commencé à se mobiliser pour aller de l'avant et d'un seul coup, il publie un autre communiqué pour dire que voilà, c'est renvoyé, c'est inédit. Nous nous retrouvons dans cette situation depuis un mois sans aucune plénière. Nous restons à la maison comme si c'est pour ça qu'on nous a élus. Nous ne faisons rien et pendant ce temps, la situation sur terrain dans notre pays se dégrade du jour au jour. Je pense, moi personnellement, que c'est inacceptable, qu'on ne peut pas continuer à laisser cette situation comme ça. Et qu'en tant que députés, nous devons nous révolter dans notre force intérieure en regardant la misère que traverse notre population.
Mais tout de même, il est curieux de constater le silence des députés face à une léthargie entretenue.
C'est effectivement ça ma colère et c'est pour cela que j'interpelle les collègues. Nous devons sortir de ce silence-là. Nous devons agir et recourir au règlement d'ordre intérieur. Qu'est-ce que prévoit le règlement d'ordre intérieur lorsque ça bloque comme ça? Est-ce que ne faudra-t-il pas qu'on destitue peut-être ces bureaux d'âge, qu'on mette en place un autre bureau? Mais effectivement, ça retarderait encore le processus. Moi, je pense qu'il faut trouver des mécanismes pour aller de l'avant, pour installer, s'il le faut de force, ces bureaux-là.
Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour amener le bureau d'âge à organiser dans le bref délai les élections? Est-ce que vous avez des moyens légaux ou réglementaires qui vous permettraient d'être en action?
Dans un premier temps, je mobilise les collègues. Nous aurons, dans les heures qui viennent, des concertations pour voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire. Je sais également que le président Mbosso sera mis au courant de ma correspondance, puisque c'est adressé à tous les députés, lui y compris. Et j'espère qu'il pourra faire diligence rapidement. Mais s'il ne le fait pas, alors nous allons activer les règlements d'ordre intérieur. Je crois qu'il y a des mécanismes à l'intérieur que nous allons étudier ensemble avec les députés dans les 24 heures qui suivent pour faire avancer les choses.
Didier Kamundu, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Par ici, nous mettons un terme à cette édition d'actualité vespérale sur Radio Kapi, supervisée et coordonnée par Richard Junior Kamunga. Sa mise en onde était signée Jean-Noël Mokondo. Patience Ngalula Mbombo vous l'a présenté. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres.